Chers frères et sœurs et chers amis, le thème de notre étude aujourd'hui est intitulé « Aimer, connaître et imiter Jésus-Christ ». Lorsque je me suis trouvé dans mon esprit, dans mes pensées, au calvaire, et ceci aussi près du Saint-Sépulcre, eh bien j'ai réalisé avec force combien Christ était loin de nos cœurs et loin de nos pensées. De se trouver réellement au lieu même de sa vie, de sa souffrance, de son agonie et de sa mort, fait mieux comprendre la réalité de son incarnation, de sa présence parmi nous, fils de notre terre, de notre race. Eh bien, il a souffert pour chacun de nous et il a réclamé notre amour. Et ce sont de pauvres mots que je vous dis là, des mots qui voudraient mieux traduire ce que j'ai compris tout d'un coup, que nous ne savions pas aimer vraiment Jésus-Christ comme quelqu'un, comme un être auquel on a vraiment livré sa vie. La souffrance, l'agonie de Jésus-Christ ont été choses terriblement concrètes et elles sont encore pour chacun de nous un appel. À genoux, au calvaire, comment voulez-vous encore prétendre aimer Jésus-Christ si vous n'êtes pas prêt à le suivre dans le renoncement total et la souffrance volontaire par amour? Relisez bien le récit de la Passion et relisez-le en pensant que cela a été souffert et vécu pour vous par un homme Dieu qui attend en retour, il attend en retour que vous en acceptiez le partage, tout simplement. Est-ce que cela est assez réel, concrètement réel pour vous, pour nous? Le vrai renoncement, celui qui atteint votre corps et votre cœur, la souffrance acceptée et aimée est plantée dans votre vie, et je dirais aussi dans ma vie. Avons-nous vraiment pris pour nous, chers amis, ce que Jésus-Christ dit cependant assez clairement? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce et prenne sa croix après moi. Il ne s'agit donc pas d'une vague ou d'un vague idéal, mais pas du tout. Mais de relire ces paroles sur le chemin de Gethsémané et le mont des Oliviers leur donne, croyez-moi, leur force d'expression totale. Jésus-Christ est toujours vivant et sa souffrance n'a pas été irréelle. Nous en tombons d'accord théoriquement, mais quand il s'agit de traduire dans la vie de chaque jour et cet appel du Seigneur à vouloir le suivre dans la mort, eh bien, nous y sommes plus tout à fait. Car c'est là aussi, en ce lieu, que Jésus-Christ a consommé son acte d'obéissance et d'obéissance jusqu'à la mort. En notre siècle, et nous en sommes de ce siècle, vous et moi, nous discutons trop les raisons de telle ou telle attitude. Quand Jésus-Christ a dit ou vécu quelque chose, si nous l'aimons, est-ce que cela ne devrait pas nous suffire? Que de temps perdu et de force en moins dans notre amour. il ne s'agit pas seulement de vous donner à vos frères et sœurs. Il faut aussi vous donner à Jésus-Christ sur le chemin de la croix et de l'obéissance. Sortez de vous-même et allez-y de tout votre désir de lui appartenir. Jésus-Christ n'est pas aimé, il n'est pas vraiment aimé par nous, il est trop lointain pour certains. Il n'est pas pour nous un ami et un Dieu dont nous suivons le moindre des conseils. Nous sommes un peu comme les apôtres qui suivirent Jésus-Christ montant vers Jérusalem pour être crucifié et qui discutaient entre eux pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Sans doute, la bonne volonté y était. Ils suivaient Jésus-Christ. Mais comme ils étaient loin des préoccupations de son âme de sauveur du monde, ils en étaient vraiment parfois bien loin. Et lui, tout plein de la vision de la passion, hanté par le désir même à son Père, et eux, les apôtres, et nous, tout repliés sur nos propres caprices, enfermés dans nos courtes vues et nos problèmes personnels. Voyez-vous, pour nous, le problème essentiel doit être celui de notre amitié avec Jésus-Christ. Et puis, il y a aussi la grâce de Bethléem qui est celle de l'humanité, de l'esprit de petitesse par amour. Nous ne devons pas être des grands qui jugent, qui enseignent, qui critiquent et qui condamnent. Ce n'est pas facile non plus, et Jésus aussi peut seul vous donner tout cela, cette grâce. Et vous savez, une sœur m'a dit un jour, il y a beaucoup de choses qu'elle a pensées sur le chemin qui menait à Bethléem et en priant à la grotte de la Nativité. Elle continue de dire, « J'ai prié pour que Jésus-Christ nous donne cette merveilleuse grâce. Cette grâce de l'humilité, celle du courage joyeux. » Et la sœur, toujours de continuer, « Cela signifie que nous sommes tenus de vivre les mystères de Jésus-Christ, tout simplement sans marchander dans la lettre de l'Évangile, dans toute la logique d'un amour que nous voudrions absolu, et dans tout le concret de notre cœur, de notre chair, et surtout de nos actes. » Voyez-vous, ici, eh bien, nous comprenons mieux que Jésus-Christ était quelqu'un et qu'il désire l'être pour chacun d'entre nous et tenir non pas une place dans notre vie, mais toute la place. Je crois qu'il faudrait répéter cela, non? Nous avons tous, ou nous devrions tous, mieux comprendre que Jésus-Christ était vraiment quelqu'un à part et qu'il désire l'être pour chacun d'entre nous, pour vous, pour moi, et tenir non pas une place dans notre vie juste comme ça, mais toute la place. Nous n'avons pas à donner autre chose au monde et aux hommes que notre vie ainsi conçue et vécue. Chers amis, vivre avec Jésus-Christ et pour lui doit devenir pour toi, pour moi, une vie à deux aussi concrète et réelle dans la foi que la vie que tu mènes au milieu des hommes. Cependant, cette vie avec Christ est différente de celle que tu mènes avec les hommes parce qu'elle se déroule dans l'obscurité et le dépouillement de la foi. Tu dois t'exercer à penser, vivre et agir en tenant compte des réalités suivantes. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Dans la plénitude de la vie et de la joie, et tu peux tout de suite avoir des rapports intimes et constants avec lui. Jésus-Christ te connaît. Et il te connaît à chaque moment dans la vie extérieure et intérieure, et il te veut à lui. Jésus-Christ a sur toi un dessein bien précis, et il attend que tu le rejoignes par tes efforts et en conformant ta volonté à la sienne. Jésus-Christ est constamment attentif et perçoit toujours tes paroles quand tu lui parles. Et il t'est présent de plusieurs manières que tu dois bien connaître. Oui, à chaque minute, il ne dépend que de toi qu'une collaboration s'établisse avec Jésus-Christ pour une action invisible mais réelle sur les hommes. À travers la Sainte Cène, eh bien, tu peux entrer en contact avec l'humanité de Jésus-Christ pour en recevoir une influence divine qui guérisse le mal qui est en ton âme et en ton corps et qui accroisse en toi la vie divine. Et je le dis aussi pour moi. La rencontre de Jésus-Christ à la mort est une éventualité certaine et proche. Tu dois y penser, la désirer et t'en réjouir d'avance et te préparer par le détachement à ce passage douloureux. La vision de Dieu, l'éternelle joie d'être avec Jésus-Christ et d'agir avec lui sur le monde et dans le cœur des hommes, sans autre limite dans le temps et l'espace que celle de sa volonté. Voilà le but de ta vie, voilà ce qui viendra bien vite et doit être dès maintenant le motif de ta joie, de ton courage et de ton espérance. Oui, tu es en quelque sorte la personne qui peut dire « Tout est possible à celui qui croit ». Gloire à Dieu. Nous ne savons pas encore croire en notre Sauveur Jésus-Christ. Notre foi est trop souvent un effort d'adhésion à des vérités plus ou moins abstraites et nous oublions qu'elle s'adresse à un homme Dieu plus vivant et plus présent que les plus proches de nos frères et sœurs. Nous oublions qu'elle devrait s'achever en une confiance totale dans le plus agissant des amis. Oui, voyez-vous, si nous savons lire entre les lignes de l'Évangile, il nous faut bien nous convaincre que le manque de foi est le défaut que Jésus-Christ redoutait le plus en ses disciples. Qu'est-ce qu'il redoutait le plus, on a bien compris, c'est le manque de foi. Et je le dis aussi pour moi. Oui, Christ nous a dit, si vous aviez la foi gros comme un grain de sénévé, ça veut tout dire. Et c'est pourquoi il est impossible pour nous de concevoir une foi sans amour, car sans cela, elle ne se terminerait pas à la personne de Jésus-Christ. Dans un acte de foi véritable, c'est toute notre vie que nous donnons au Seigneur. Et cette force de notre foi qui est en nous et œuvre de l'Esprit de Dieu, c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit de Dieu et c'est aussi l'œuvre de nos efforts. Pourquoi disons-nous « Seigneur, Seigneur » et ne faisons-nous pas ce que le Seigneur nous dit ? Une telle foi est l'œuvre patiente d'une volonté quotidienne, et ceci pour atteindre toute la présence de Jésus-Christ. La vue du lac de Gethsémané, eh bien, est des environs. C'est simplement pour nous une véritable leçon de choses. Ces lieux nous paraissent tellement chargés de souvenirs du Christ. C'est là, sur les rives du lac, sur les collines environnantes, sur la surface même de cette mer en miniature, que Jésus-Christ a le plus vécu et aussi le plus enseigné. Capernaum, le mont des Béatitudes, Tibériade, sont là devant nos yeux. Et nous aimerions reconstituer les scènes décrites dans l'Évangile et vivre ici des souvenirs de celui que nous aimons. Nous aimerions revoir les barques de pêche sur le lac. Et si cet effort d'imagination est un besoin, parce que l'amour ne peut se passer d'être attentif à toutes les traces du passage de l'être aimé, il serait étrangement illusoire de s'en contenter. La foi n'est pas la mémoire attristée des choses qui ne reviendront plus et dont nous voyons peu à peu s'effacer les traces terrestres. Si le fait de nous agenouiller au jardin des Oliviers, au lieu de la croix ou sur le mont des Béatitudes, est un stimulant pour notre foi défaillante, il faut bien le dire, cela ne risque pas de suffire. La foi n'est pas le souvenir d'une réalité que l'on sait véridique, mais elle est une vie qui doit aller de l'avant. Galiléens, que restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce même Jésus-Christ qui vient de vous être enlevé au ciel, eh bien, il reviendra de la même manière que vous venez de le contempler dans son ascension vers le ciel. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 12. Oui, notre foi est une marche à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur. Nous ne pouvons regarder les lieux où a vécu Jésus-Christ comme les témoins des choses passées, comme un archéologue s'efforce de rendre vivant ce qui, en réalité, est déjà mort. Il n'y a plus de barque sur le lac. Plus de pêcheurs qui sortent la nuit jeter leurs filets. Un chalutier de fer fait de la pêche industrielle maintenant. Ça a changé. Des chips sillonnent les pistes aux alentours de Capernaum en la patrie de notre Seigneur, car il y a là une frontière entre des hommes qui se battent. Il y a des débris de béton armé, des fils de fer barbelés souillent les pentes gazonnées. Toute une vie ardente tendue vers l'avenir et fait donc disparaître les traces du passé. Des villages d'immigration alignent leurs toits de tôles d'aluminium brillant au soleil. Des stations de pompage succèdent à travers de gros tubes de fer. L'eau du lac, oui, Ils pompent l'eau du lac pour irriguer les cultures scientifiques. Et l'avenir des hommes est là, et leur activité effacera de plus en plus les traces visibles du passage du Sauveur et changera les traits du paysage. Les béatitudes doivent être non seulement méditées sur les pentes désertes de la colline où elles retentirent pour la première fois, mais elles doivent être ardemment repensées, revécues au milieu d'hommes, prisonniers et esclaves, eux aussi, à leur manière, il faut bien le dire, d'un travail tyrannique. Elles doivent être revécues, le regard tourné en avant au milieu des pylônes de fer, des maisons en tôle ondulée, des lourds camions sur les routes de goudron, des kibbutz au travail rationaliste et dans le bruit des machines. Car au milieu de tout cela se cache, plus qu'au temps du Seigneur, bien davantage encore, eh bien, se cache une immense agonie humaine. C'est la crainte des lendemains de guerre et la hantise de la nourriture à trouver. Ce nouveau visage, oui, ce nouveau visage de la Terre Sainte, eh bien, il ne faut pas l'écarter. Il est une mise en demeure et une leçon dans laquelle il serait bien vain de rêver avec regret aux horizons contemplés par Jésus-Christ. Oui, car il est venu et il est mort pour les hommes. Les lieux saints doivent sans cesse nous ramener à cette réalité. Les béatitudes, l'évangile sont éternelles et doivent être lues et entendues et vécues comme sortant actuellement de la bouche d'un Christ vivant. Prêchons aujourd'hui au milieu de nos places publiques parce que il est l'éternel vivant. Il est l'éternel vivant pour les hommes d'aujourd'hui, pour ceux de demain également, autant que pour les Galiléens du premier siècle, car il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, selon saint Matthieu, chapitre 22, verset 32. Et c'est ainsi que de notre foi doit jaillir une grande espérance tendue vers le Seigneur qui vient. Galiléens, que restez-vous là à regarder vers le ciel? Car ce même Jésus-Christ qui vient de vous être enlevé au ciel reviendra de la même manière que vous venez de le contempler dans son ascension vers le ciel. Pour connaître Jésus-Christ, quel chemin avons-nous? Il me semble qu'une connaissance de Jésus-Christ ne peut être parfaite si elle ne prend pas trois chemins. Pour connaître Jésus-Christ, il faut tout d'abord connaître Dieu son Père. Peut-être pourrions-nous dire aussi que pour connaître Dieu, il faut connaître Jésus-Christ. N'est-il pas la voie, la vérité et la vie? Certes, mais pourquoi Dieu aurait-il alors attendu des siècles, attendu pour envoyer son Fils bien-aimé, d'avoir inculqué dans le cœur de son peuple les notions les plus vigoureuses sur la transcendance divine et le respect de la divinité poussée à un point qui nous effraie? Les multiples interdictions qui entoureraient cette approche du Dieu trois fois saint avaient pour but d'éduquer dans ces hommes le véritable sens de Dieu. Et cette connaissance du Père transcendant est donc une connaissance préalable à la rencontre avec Jésus-Christ. Nous pouvons dire aussi, en ce qui nous concerne, que c'est simultané, puisque nous naissons membres du Christ par le baptême et que nous avons d'abord connu Jésus-Christ. Mais il faut bien prendre garde que nous n'avons pas véritablement connu le Christ si nous n'avons pas véritablement connu Dieu le Père. Et puis, voyez-vous, la connaissance du visage humain de Jésus-Christ nous est donnée parce que elle est indispensable à une révélation parfaite de Dieu. Jésus-Christ, par tout ce qu'il est, révèle un aspect du mystère de Dieu qui était seulement entrevu dans la révélation de l'ancienne loi. Nous devons donc connaître Jésus-Christ comme les apôtres l'ont connu, et nous verrons quelle est la part active, personnelle, que nous devons apporter dans cette recherche. Et il y a une troisième source de connaissance, sans laquelle nous ne pouvons ni connaître Dieu, ni connaître l'Évangile. Elle est peut-être la plus négligée, celle à laquelle nous sommes le moins attentifs. C'est la sagesse divine. Oui, c'est la parole de l'Esprit-Saint dans notre cœur. C'est l'enseignement donné par l'Esprit de Jésus-Christ. Et chaque fois que nous abordons la connaissance du mystère de Dieu, et quand je dis mystère de Dieu ou mystère du Christ, j'entends tout ce que nous savons de Dieu par révélation depuis le mystère de la Trinité qui doit être vivant dans notre vie jusqu'au mystère de l'Église lorsque nous abordons ce mystère dans nos méditations, nos réflexions théologiques. Le faisons-nous, chers amis, avec l'âme de quelqu'un auquel Dieu se révèle et avec l'humilité d'un enfant? Lorsque nous étudions la théologie, les écrits des saints et lorsque nous méditons l'Évangile, sommes-nous, chers amis, conscients d'aborder la connaissance d'un Dieu mystérieux et que ces connaissances qui nous semblent rationnelles dans notre étude ne peuvent être vérifiées si notre cœur n'est pas dans les dispositions voulues pour être enseigné par Dieu? Et c'est le risque terrible du théologien. Car sans l'humilité totale, sans cette docilité intérieure que nous devons apporter, même lorsque nous jugeons avec notre intelligence, l'effort même de l'étude théologique risque d'alourdir la confiance dans notre raison et dans ses déductions au point de nous fermer le cœur et l'âme aux intuitions véritables de la sagesse divine qui est toute autre chose. Je crois qu'il faudrait peut-être répéter ce passage. J'essaye. Lorsque nous étudions la théologie, lorsque nous étudions les écrits des saints, et lorsque nous méditons l'Évangile, sommes-nous conscients d'aborder la connaissance d'un Dieu mystérieux? Et que ces connaissances qui nous semblent rationnelles dans notre étude ne peuvent être vivifiées si notre cœur n'est pas dans les dispositions voulues pour être enseigné par Dieu? Et c'est là le risque terrible du théologien, sans humilité totale, ou si vous voulez, sans l'humilité totale, sans cette docilité intérieure que nous devons apporter même lorsque nous jugeons avec notre intelligence fragile. Eh bien, l'effort même de l'étude théologique risque d'alourdir la confiance dans notre raison et dans ses déductions au point de nous fermer le cœur et l'âme aux intuitions, vous avez bien compris, aux intuitions véritables de la divine sagesse et les réussites des grands docteurs sont rares sans la sagesse divine. Et ce sont des sommets de l'intelligence humaine où l'esprit d'enfance a engendré la sagesse. Oui, c'est une telle disposition que vous devez apporter dans la méditation de l'Évangile et chaque fois que vous abordez le mystère de Dieu, oui, chaque fois que vous en parlez, que vous en discutez. Et c'est sur ce terrain-là qu'il y a un danger pour les pasteurs, les prêtres, qui doivent légitimement utiliser leur science et leur intelligence en vue de sonder les mystères de Dieu. Ne soyez pas attachés simplement à vos idées. Ne cherchez pas à avoir à tout prix raison. Soyez petits et soyez humbles. Qu'avez-vous à découvrir vous-même par la raison? Dites-vous bien que si vous êtes amené un jour à discuter sur de tels sujets, eh bien le fait même que vous vous durcissez dans cette discussion sur les choses de Dieu vous éloigne en même temps de lui. C'est d'autant plus grave que la nuance du message spirituel qui vous est communiqué et que vous allez transmettre à d'autres est faite de simplicité et d'humilité. De telles dispositions ne sont absolument pas opposées à la science de Dieu suppose l'esprit de détachement, d'humilité et de docilité. Je m'excuse, je me suis un peu accroché et c'est pour ça que je vais répéter car c'est très important. Voyez-vous, de telles dispositions ne sont absolument pas opposées à la science. Car la science de Dieu s'oppose, elle suppose surtout l'esprit. Donc la science de Dieu suppose l'esprit, un esprit de quoi ? Un esprit de détachement, un esprit d'humilité et un esprit de docilité. Nous y voilà donc. Et sachons, chers amis, recevoir, sachons être tel que Dieu puisse se révéler en nous. Lorsqu'il s'agit de connaître Dieu, tout est révélé. Tout est enseigné par lui. Ce n'est pas notre pauvre raisonnement qui y ajoutera quelque chose. Oh non, sinon, au moins, dans l'humilité. N'oublions jamais, car il est légitime que l'intelligence cherche à approfondir la foi. Mais avec quelle docilité de cœur et d'intelligence nous devrions chercher une telle connaissance. Chers amis, sommes-nous tenus d'imiter Jésus-Christ? La question ne peut nous laisser indifférents puisque elle met en cause nos rapports avec le Seigneur. Nous ne pourrons jamais l'imiter totalement, c'est pas possible, mais nous pouvons nous y approcher. Nous n'avons pas seulement à le prier, à l'écouter, à l'aimer. Il nous faut aussi devenir semblable à lui. Et pour nous convaincre de cette nécessité, il nous suffit de regarder Jésus-Christ lui-même, le vrai Dieu et vrai homme. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, tel est, il me semble, le commandement de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 48, et qui fait écho à celui de l'Ancien Testament, où il est dit « Soyez saints, car moi, Yahvé, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. » Lévitique, chapitre 19, verset 2. Certes, nous savons bien qu'il y a comme une emprise de Dieu sur nos vies, puisque lui-même nous appelle et nous mène à lui. Nous savons bien qu'il nous faudra devenir vraiment saints aux yeux de Dieu. Mais pratiquement, que signifie pour nous cet appel à partager la sainteté et la perfection du Dieu incréé et trois fois saint? Jésus-Christ a répondu à notre question en affirmant à Philippe, il a dit « Qui me voit, voit le Père ». Saint Jean, chapitre 14, verset 9. « Aussi est-il la voix ?» Et ceci à tel point que nous ne saurions tendre à la perfection que Dieu nous demande sans devenir semblable à Jésus-Christ. Pour imiter le Père, il nous faut donc imiter Jésus-Christ, qui est l'image du Père et sa parole sainte, éternelle, humainement exprimée. Jésus est la plénitude de la révélation du Père, mais avec lui, cette révélation reçoit sa plénitude humaine parce que en lui, selon le mot de l'apôtre Paul, en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Colossiens chapitre 2, verset 9. Non seulement Jésus-Christ nous parle de Dieu comme aucun autre prophète ne l'avait pu ou fait avant lui, mais il nous manifeste encore le Père par tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait. Jésus-Christ, par exemple, dans cette parabole que vous connaissez, nous dit que le père de l'enfant perdu a aperçu de très loin son fils cherchant la maison paternelle et qu'il était tout ému. Il courut donc se jeter à son cou pour l'embrasser tendrement. Mais le comportement du Seigneur à l'égard des pécheurs et sa mort sur la croix nous en disent encore bien plus long sur l'amour miséricordieux de Dieu. Entre nous déjà, il ne nous est pas possible, par nos seules paroles, de faire connaître vraiment et intégralement une personne que nous aimons. Décrivez cette personne, joignez à votre discours toutes les photographies que vous voudrez, eh bien vous ne pourrez communiquer ce que je ne sais que par la vue ou par l'action, que dans un échange de regards ou dans le partage de la vie. On n'a jamais fini de connaître quelqu'un, que dire alors lorsque ce quelqu'un est Dieu lui-même. Voyez-vous, si nous voulons connaître Dieu en son propre mystère, Il ne nous suffira pas d'écouter ce que Jésus-Christ nous en dit, ni même de scruter la vie de Jésus-Christ pour y découvrir le visage et le cœur de Dieu. Il nous faudra encore suivre, oui, suivre Jésus-Christ de bien plus près, de plus près possible de sa vie, pour modeler notre vie au cœur de Dieu. Il y a encore ceci que je voudrais soumettre à notre réflexion. En Jésus-Christ, et par lui, nous sommes enfants de Dieu et fils adoptifs. Mais notre filiation divine n'a pas atteint sa pleine maturité. Présentement, nous sommes en croissance et en apprentissage de vie divine. Tel est le paradoxe de la condition chrétienne, que nous soyons fils en vérité de par le don de Dieu et que nous soyons encore à le devenir par notre libre acceptation de ce don, par notre réponse active aux prévenances divines et par notre collaboration aux transformations que la grâce veut opérer en nous. Il nous faut donc vivre notre vie d'homme en enfant de Dieu. Mais comment procéder? Comment saurons-nous traiter avec Dieu en fils et nous comporter comme tel? Eh bien, ici encore, Jésus-Christ répond à nos questions, car il est notre frère aîné, à plus d'un titre et en un sens que nous n'approfondirons jamais assez. Premier-né de toute créature et de l'humanité nouvelle, il nous a acquis au prix de son sang précieux, et notre filiation adoptive réalisée simplement le début de l'épître aux Colossiens, par exemple. Là, vous comprendrez notre filiation adoptive. Et nous lui sommes donc si étroitement liés dans notre filiation adoptive que nous ne saurions nous adresser à Dieu comme à notre Père sans passer par lui et sans demeurer en lui. Et c'est de lui qu'il nous faut apprendre à nous comporter en enfants de Dieu. Verbe fait chair, et ceci pour nous et pour notre salut. Il a donc vécu humainement et parmi nous son propre mystère de Fils unique du Père éternel. Tout l'enseignement et toute la vie de Jésus-Christ, tels qu'ils nous sont rapportés dans l'Évangile, constituent pour nous une pédagogie divine au sens propre des termes, une nouvelle raison de ressembler à Jésus-Christ. Mais il ne s'agit pas seulement d'une ressemblance toute extérieure de sa vie. Il faut aussi aller plus avant pour partager ses préoccupations, ses désirs, ses joies et ses peines. Voyez-vous, l'apôtre Paul nous le rappelle expressément. Éprouver les sentiments mêmes qu'ils furent ceux du Christ Jésus. Philippiens chapitre 2, verset 5. Et cela, il est dit, et cela pourra nous entraîner fort loin si nous ne voulons pas nous contenter seulement d'écouter. Jésus-Christ doit pas seulement être écouté, mais nous devons le suivre dans l'obéissance. Oui, chers amis, dans la mesure même où nous serons entièrement fidèles à cette intimité d'imitation et d'union dans l'amour, il ne faut plus avoir peur de briser des formules de vie trop étroites, des définitions trop rigides. Nos âmes ont soif de Jésus-Christ. Elles ont soif de la suivre, de le suivre dans sa pauvreté concrète. Elles ont soif de réaliser en nous ce qu'il a béatifié sur la montagne de Galilée, soit de l'aimer, de le regarder, de le contempler dans une prière continuelle. Oui, soif de partager son amour rédempteur et donc d'aimer tous nos frères et sœurs et surtout de les aimer d'amitié pour eux-mêmes, chacun comme s'il était seul au monde, sans chercher de résultats ni de rendement apostolique, mais sans mesurer non plus au compte-gouttes nos activités, sans essayer perpétuellement de les confronter à un état de vie abstraitement défini. Voyez-vous, suivre Jésus-Christ sur les routes, c'est aussi être conduit progressivement par lui, à travers des prédictions de croix, de mort, de souffrance, jusqu'à la participation réelle à l'œuvre du Sauveur. Jésus-Christ a été si patient avec ses apôtres, avec nous, et il le sera aussi pour vous. Soyons donc patients avec nous-mêmes et ne nous décourageons jamais. Où je vais, vous ne pouvez pas me suivre maintenant, mais vous me suivrez un peu plus tard. Et c'est bien là, chers amis, notre vocation d'aller où est Jésus-Christ. Car il est dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais tout est possible à Dieu. Il faut simplement croire. Et puis, il y a de multiples demeures dans le royaume de Jésus-Christ. Je crois même qu'il y en a autant d'espèces de demeures que d'hommes sauvés. Ça, c'est merveilleux de savoir. Je peux et je veux dire que l'achèvement de notre vocation par l'Esprit Saint à l'aide de ses dons n'est pas exactement le même pour chacun d'entre nous. Voyez-vous, suivant les tempéraments, suivant les vocations, Dieu fait une œuvre unique et toute personnelle en chaque âme, mais il y aura toujours en chacun un trait souligné par l'Esprit Saint et qui sera un de ceux dont l'ensemble constitue la physionomie selon l'idéal que Dieu nous propose. Les uns seront conduits par un chemin d'humilité, d'autres par le chemin douloureux du partage des croix, et combien ce partage peut revêtir de formes diverses, et d'autres encore par un chemin d'adoration, davantage indéterminé dans les débuts, le chemin se personnalise lorsque commence l'ascension de la montagne et que l'aridité devient dominante. C'est alors qu'on découvre, chers amis, son peu de foi. Parce que les difficultés du chemin et la faiblesse de celui qui doit le suivre apparaissent comme insurmontables. rien de plus normal. Mais notre effort doit devenir alors plus humble et en même temps plus total. Et nous engageons tout entier pour le Seigneur et notre Sauveur. Chers amis, avant de terminer par la prière, eh bien, j'ai reçu pour vous quelques très courts, des très courtes pensées qui peuvent être des encouragements. Nous avons été créés pour aimer Dieu. Et c'est pourquoi notre raison d'être et notre destinée ne sont pleinement accomplies que lorsque, dans notre amour, nous regardons Jésus-Christ comme notre époux divin. Aimer Dieu, c'est la plus grande sagesse, car à cet amour seront révélés les secrets de la personnalité et les mystères de la divinité. Le cœur de Jésus-Christ est la source d'où se répandent dans le cœur des hommes, des femmes, toutes les formes de l'amour filial, conjugal et fraternel. L'image qu'il a choisie lui-même pour définir l'attitude de ses fidèles envers lui, c'est l'amour de l'époux pour son épouse et réciproquement un amour réel, total, qui prime absolument tout. Aimer Jésus-Christ comme un époux, c'est reconnaître le plus précieux trésor du ciel, et pas seulement du ciel, et de la terre, en qui sont unis et résumés toute la beauté, toute la puissance de l'amour, toute la gloire des créatures et de l'univers. Et chers amis, maintenant, nous allons prier ensemble. Vous pouvez prier cette prière dans votre cœur en la répétant simplement après moi ou, si vous voulez, à haute voix. Je veux tâcher de dire les mots, les paroles qui me viennent assez lentement pour que vous puissiez les répéter d'une façon ou d'une autre. Prions. Ô notre Dieu, béni soit ta bonté qui nous a protégés et fait revoir la lumière de ce jour. Béni soit ton amour qui nous appelle à te chercher et à nous approcher de toi. Béni soit ta puissance pleine de miséricorde qui seul peut nous soutenir et nous fortifier dans toutes nos épreuves, dans toutes nos inquiétudes et dans toutes nos afflictions. Tu vois, Seigneur, les besoins de chacun de nous. Tu vois ces épreuves et daigne donc venir à notre aide. Fortifie ceux qui sont troublés. Essuie les larmes de ceux qui pleurent. Prends pitié de ceux qui te résistent et ne veulent pas chercher en toi leur espérance. Donne-nous à tous les secours de ton Saint-Esprit, qu'il remplisse nos âmes de paix et de résignation à ta volonté pour toutes choses, et rends-nous obéissants à cette volonté divine, daigne faire naître dans nos cœurs une reconnaissance durable et propre à hâter nos progrès dans la sanctification et fais-nous sentir qu'il ne peut y avoir de véritable paix avec toi dans la fidélité à accomplir le devoir et une horreur décidée pour tout ce qui représente un péché. Ne rejette point notre prière. Ô Seigneur, nous voulons t'offrir pas seulement notre vie, mais nous t'offrons maintenant au nom de Jésus-Christ pour toujours, pour l'éternité. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime vraiment. Oh oui, vous pouvez le croire, car il est venu pour vous offrir son salut. Donc, il est venu par amour pour vous, pour moi. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis et merci pour l'intérêt que vous portez à ces messages, à ces études, pas toujours faciles. Et nous vous remercions pour le désir que la plupart d'entre vous ont dans leur cœur pour continuer d'avancer, de progresser dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ pour mieux le servir. Au revoir, mes très très chers amis. Au revoir.